Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Une vie bouleversée », suivi de « Lettres de Westerbork » et le journal intime d'Etty Hillesom, jeune femme juive néerlandaise qui écrit à Amsterdam entre 1941 et 1943, complétée par les lettres qu'elle envoie depuis le camp de transit de Westerbork avant sa déportation à Auschwitz, où elle meurt en 1943. Le livre appartient à la littérature de témoignages et au récit autobiographique, mais il dépasse la simple chronique historique par sa profondeur spirituelle, sa qualité d'écriture et sa réflexion sur la dignité humaine au cœur de la persécution nazie. Ce texte documente l'expérience de la Shoah depuis l'intérieur, tout en montrant une évolution intérieure singulière. Etty Hillesom y interroge l'amour, Dieu la souffrance, la liberté morale et la responsabilité envers autrui. L'ouvrage est ainsi à la fois un document historique majeur, un parcours de formation intérieure et une méditation sur la manière de rester humain dans des circonstances extrêmes. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un journal de guerre devenu un témoignage central de la Shoah. Le cœur du livre est le journal tenu à Amsterdam par Etty Hillesom entre 1941 et 1943, à une période où les lois anti-juives, la surveillance et les déportations transforment radicalement la vie des Juifs aux Pays-Bas. Ce qui distingue ce témoignage d'autres écrits de guerre, c'est sa double valeur. Il documente précisément un moment historique tout en conservant une écriture personnelle, souvent immédiate, qui restitue les réactions d'une conscience en train de se former sous la pression de l'événement. Le texte ne se contente pas de décrire les persécutions. Il montre comment l'expérience quotidienne de la menace modifie la perception du monde, des autres et de soi-même. Le livre a aussi acquis une place singulière dans la mémoire de la Shoah, souvent rapprochée du journal d'Anne Frank, mais avec une tonalité différente ici. La parole est celle d'une adulte qui sait davantage ce qui arrive et qui tente de répondre moralement à l'effondrement de son univers. Cette dimension en fait un témoignage historique et intellectuel majeur. Deuxièmement, une exploration intérieure de l'amour, du désir et de la liberté morale. Le journal ne se limite pas à l'histoire de la persécution. Il suit aussi l'évolution intime d'Etty Hillesom, marquée par l'analyse de ses relations affectives, de ses tensions intérieures et de sa recherche d'une forme de liberté personnelle. Les sources insistent sur la manière dont elle affronte ses désordres intérieurs avec une grande lucidité, sans les réduire à une morale simpliste. Le livre propose ainsi une réflexion rare sur la construction de soi en temps de crise, comment devenir plus cohérent, plus juste et plus disponible aux autres alors que tout pousse à l'éparpillement et à la peur. Cette démarche ne relève pas d'un programme psychologique au sens moderne, mais d'un travail d'examen intérieur continu. Etty ne cherche pas à se raconter pour se justifier. Elle observe ses contradictions, ses élans et ses limites, puis en tire une forme de discipline spirituelle. Cela donne au livre une portée qui dépasse le cadre du témoignage historique. Il devient aussi un texte sur la maturation de la conscience, sur la responsabilité de ses actes et sur la possibilité de transformer une crise extrême en cheminement intérieur. Troisièmement, une spiritualité marquée par le dialogue avec Dieu et par l'héritage chrétien. L'un des aspects les plus remarqués du livre est la place donnée à la relation à Dieu. Etty Hillesom parle avec une grande liberté de sa vie intérieure, de la prière, du silence et de la présence divine, dans un langage qui surprend par son intensité et sa simplicité. Les sources soulignent que cette spiritualité est souvent nourrie davantage par saint Augustin et les évangiles que par le judaïsme traditionnel, ce qui peut dérouter le lecteur mais éclaire aussi la singularité de son parcours. L'enjeu n'est pas de trancher une appartenance religieuse, mais de comprendre comment elle élabore une foi personnelle au milieu du désastre. Son rapport à Dieu ne la détourne pas de la réalité historique. Au contraire, il lui permet d'affronter le mal sans se laisser détruire par la haine. Cette orientation spirituelle donne au livre une tonalité presque paradoxale au cœur de la catastrophe. Le texte reste tourné vers la beauté, la présence et une forme d'acceptation active. Le lecteur y trouve une méditation exigeante sur la foi comme acte de résistance intérieure, non comme échappatoire. Quatrièmement, Westerbork, la violence du camp, décrite sans haine ni illusion. Les lettres de Westerbork prolongent le journal en donnant accès à la vie quotidienne dans le camp de transit, par lequel passent les Juifs néerlandais avant leur déportation vers la Pologne occupée. Ces lettres apportent une dimension concrète essentielle. Elles montrent les départs de convoi, l'attente, la fatigue, la peur, la promiscuité et l'épuisement moral. Le livre ne transforme pas Westerbork en décor symbolique. Il en fait un lieu réel de dégradation administrative et humaine, où le mal prend une forme organisée et répétitive. Ce qui frappe pourtant est le refus constant d'Etty de céder à la haine comme principe d'explication. Elle voit la cruauté, les lâchetés et l'absurdité du système, mais elle refuse de confondre indignation morale et ressentiment stérile. Cette position donne une densité particulière au texte. Il ne minimise jamais l'horreur, mais il cherche à ne pas laisser cette horreur définir entièrement la conscience de celle qui écrit Les lettres sont ainsi à la fois des documents sur la mécanique de la déportation et des exercices de maintien éthique face à un monde en train de se désagréger. En dernier lieu, le service aux autres comme réponse ultime à la destruction, un des fils directeurs du livre est le déplacement progressif du regard d'Etty Hillesum. Elle passe d'une introspection intense à une attention de plus en plus forte aux autres, notamment aux personnes détenues, aux malades, aux familles et aux proches restés à Amsterdam. Dans les sources, on voit qu'elle choisit de rester proche des siens et de se rendre utile, y compris à Westerbork, plutôt que de se protéger dans la clandestinité. Ce choix donne au texte une signification morale forte au lieu de réduire la survie à l'instinct de fuite. Il met en avant une logique de présence, de soutien et de partage. L'altruisme n'y apparaît pas comme un idéal abstrait, mais comme une pratique quotidienne sous contrainte extrême. Cette attitude explique en partie la postérité du livre. Il ne montre pas seulement une victime, mais une conscience qui cherche à demeurer utile, lucide et digne jusqu'au bout. C'est ce mélange de courage, de compassion et d'acceptation qui fait de l'ouvrage un texte singulier dans la littérature concentrationnaire. En conclusion, ce livre s'adresse d'abord à ceux qui s'intéressent à la Shoah, à l'histoire des Juifs des Pays-Bas, à la littérature de témoignages et aux écrits spirituels nés dans des contextes de crise extrême. Il conviendra aussi aux lecteurs qui cherchent un texte exigeant sur la vie intérieure, la responsabilité morale et la manière de penser la souffrance sans céder aux implismes. Son intérêt pratique n'est pas celui d'un manuel, mais celui d'une expérience de lecture qui oblige à clarifier sa relation à la liberté, à la haine, à la compassion et au sens de l'existence. Ce qui le distingue de beaucoup d'autres récits sur la Seconde Guerre mondiale, c'est l'alliance rare entre une observation historique précise et une introspection d'une grande tenue littéraire. Etty Hillesum ne raconte pas seulement ce qu'elle subit, elle examine ce que l'épreuve fait à la conscience humaine. Le résultat est un texte à la fois document historique, œuvre littéraire et méditation spirituelle, d'une intensité qui demeure singulière dans le champ des écrits sur la Shoah. Si vous souhaitez soutenir Etty Hillesum, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!